Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Et oui, aujourd'hui nous sommes avec Laurie Cazot, bonjour.
Bonjour Yves.
Alors Laurie Cazot, vous êtes céramiste et designer d'intérieur, de décoration intérieure, fabrication de céramique en décoration intérieure qui s'appelle Cazot Carreau. Je suis allé voir sur un site, puisque vous êtes inspiré des Azulejos,
oui, ouais.
Donc c'est une spécialité du Portugal. Mm-hmm. Vous en êtes issu vous-même ?
Non, pas du tout. Non, alors déjà, je voudrais dire que je me considère pas comme céramiste parce que je travaille pas la matière, la terre. Je ne fabrique pas la matière première. Je me procure les carreaux avant les maillages. Et je me définirais plutôt comme sérigraphe et comme graphiste. Donc je conçois des motifs que je viens sérigraphier, donc que je viens imprimer manuellement après sur la faïence. Donc le carreau, c'est vraiment mon support d'expression, mais je ne fabrique pas la matière première, voilà.
Et vous avez une formation de graphiste, vous êtes passé par des écoles, je suppose ?
Oui, alors j'ai fait un master en design textile à Lyon, à la Martinière. Et là-bas, donc, j'y ai appris vraiment différentes techniques liées au textile, donc aussi bien le tissage, le tricotage et la sérigraphie. Et c'est la sérigraphie qui m'a vraiment plu lors de ces années scolaires. Et donc j'ai eu envie de la développer, mais sur un autre support que le textile. Voilà. Et c'est donc après un voyage à Lisbonne donc, que j'ai découvert les azuleiros. Donc je ne suis pas portugaise, mais j'ai eu vraiment un coup de cœur pour cette matière-là. Et j'ai eu envie de proposer ma version personnelle et actuelle de ces carreaux en faïence.
Alors en parlant de azuleiros, comme on dit, je regardais, donc il y a beaucoup de scènes reproduites en carreaux, mais des scènes qui sont découpées en morceaux comme une mosaïque quelque part, alors que vous êtes plutôt dans la segmentation et la reproduction par symétrie.
Oui, tout à fait. C'est vrai que la symétrie, c'est une notion qui m'intéresse. Et à Lisbonne, on a à la fois des scènes qui en effet se développent sur plusieurs carreaux, et on a aussi ces petits motifs géométriques qui vont être reproduits d'un carreau à l'autre et qui vont créer une surface un peu rythmée. Et donc moi, au début, c'est vrai que je suis partie de ça avec dans l'idée de proposer des motifs qui aient une double lecture, donc avec une vision de loin, où de loin on apercevrait des motifs floraux. Et puis quand on se rapproche de ces motifs, là on aperçoit autre chose, on aperçoit des corps, on aperçoit des visages, des animaux. Enfin voilà, une double interprétation des imprimés. Et puis maintenant, je fais de plus en plus des fresques, donc des grands motifs qui s'étendent sur plusieurs carreaux. Pardon. Voilà, donc j'essaye de diversifier un peu les approches du motif.
Alors ces motifs, c'est une création pure ou alors aussi on vous commande une thématique ou un thème d'illustration ?
Alors c'est un peu des deux. En effet, j'ai commencé vraiment avec une collection de motifs, donc une vingtaine de motifs que j'ai commencé à dessiner à la main et que ensuite j'ai retravaillé sur des logiciels informatiques de manière à créer un motif qui puisse être reproductible d'un carreau à l'autre. Je travaille aussi sur commande, en effet, parfois des personnes ont envie d'un thème en particulier. Par exemple, j'ai eu une commande des gens qui souhaitaient des motifs qui rappellent un peu la Grèce antique avec toutes ces mosaïques qui reconstituent un peu des thèmes marins, voilà. Et donc voilà, ça aussi j'aime bien travailler à partir d'un thème qu'on me soumet, parce que finalement ça me permet de travailler des choses que j'aurais pas forcément travaillé de moi-même.
Est-ce que pour vous, c'est un moyen aussi de narration, ce travail, particulièrement par rapport au vôtre ?
Oui, en effet, j'aime bien l'idée de pouvoir raconter une histoire à travers ce support-là, et je trouve que le carreau, ça s'y prête bien, parce que c'est pas seulement... Ce que j'aime bien avec le carreau, finalement, c'est que c'est pas seulement un objet décoratif, c'est qu'il a aussi une utilité propre, et que l'idée de pouvoir raconter une histoire, sur le mur de sa cuisine ou de sa salle de bain, ça me plaît bien.
Alors Laurie, vous êtes installée depuis combien de temps dans le Diwa ?
Alors je suis là depuis cet été, depuis fin juin, voilà, donc c'est tout récent. Et j'ai un atelier donc chez moi à Recoubeau-Jansac, donc c'est un atelier qui est en train de se mettre en place et où j'ai prévu d'organiser des stages et des ateliers aussi de sérigraphie sur faïence, mais pas uniquement de sérigraphie, aussi sur tissu, sur papier, voilà. Parce que c'est une technique que je trouve intéressante, qui est très artisanale, mais qui permet aussi de produire en assez grande quantité.
Et pour vous, le Diwa, ça a été pour vous un endroit...
Inspirant.
Inspirant, oui. Mmh. Oui, inspirant.
Oui, oui, oui. Alors moi, je viens de Lille. J'ai passé 3 ans à Lille. Et donc c'est vrai que je suis arrivée ici à Die par hasard l'année dernière. C'était sur le chemin des vacances. Et j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce coin-là, et je me suis dit qu'il y avait plein de choses à y faire, et qu'en effet la nature, parce que je m'inspire beaucoup de la nature pour mes motifs, et je me suis dit qu'ici c'était un lieu assez propice à ça.
Et puis il y a le soleil surtout, hein.
C'est vrai.
Est-ce que justement le soleil a une action sur vous par rapport à la couleur, à la luminosité de votre création ?
Oui, je pense en effet, c'est ce que j'ai aimé à Lisbonne aussi, c'est que ces carreaux, ils apportent beaucoup de lumière dans la ville, comme ils reflètent beaucoup les rayons du soleil. Et j'aimais l'idée aussi que le motif et la couleur viennent orner la ville, parce que ça, on n'a pas beaucoup l'habitude de le voir ici en France. Et là-bas, il y a une vraie importance qui est donnée à l'ornementation et aux motifs. Et j'avais envie d'apporter ça aussi ailleurs.
En France, par exemple, vous n'avez pas connaissance de cette technique du Portugal. Vous avez vu des choses ?
Non, justement, quand j'ai commencé à faire ça, alors moi, je connaissais la sérigraphie. Donc au début, j'ai commencé à sérigraphier sur des carreaux, mais avec de l'acrylique. Et puis ensuite, j'ai eu envie de développer un peu des techniques de céramique. Donc à Lille, j'ai eu la chance de partager un atelier avec 2 céramistes qui m'ont, elles, apporté des techniques vraiment de céramique, d'émaillage, d'engobe. Et donc à partir de là, j'ai pu me rapprocher des techniques qui sont utilisées au Portugal. Et c'est ça aussi qui me plaisait dans l'idée de réutiliser des techniques traditionnelles avec des motifs un peu plus actuels.
Alors, le processus de fabrication commence d'abord par un dessin, je suppose, que vous avez créé vous-même, en vous inspirant peut-être.
Alors, les inspirations, elles sont diverses. La nature au sens large, donc la faune, la flore, il y a beaucoup d'animaux et de végétaux dans les motifs. Et puis aussi le corps et la figure humaine au sens large. Là, par exemple, je participe aux séances de modèles vivants aux agités du local. Et ça, c'est une vraie source d'inspiration aussi. C'est une vraie matière pour de nouveaux motifs.
Alors, une fois le dessin fait, donc, vous le traitez aussi par informatique. Donc, vous avez des outils que vous avez acquis par les études, je suppose.
Oui, tout à fait.
Vous avez une grande polyvalence, donc, entre le tricot, vous citiez la couture, je crois.
C'était des études assez riches, en effet, où on a abordé vraiment toutes les techniques liées au textile. Et donc on y a appris aussi à créer des motifs, donc c'était des motifs plutôt pour du tissu ou du papier peint, mais finalement la construction du motif, elle est assez semblable là pour l'utilisation que j'en ai avec les carreaux. Donc en effet, je dessine à la main des éléments et puis ensuite je viens les recomposer sur Photoshop. Voilà, pour créer un motif au rapport, donc c'est-à-dire un motif qui va pouvoir se prolonger d'un carreau à l'autre.
Et de là, donc, vous fabriquez un transfert sur un support plastique ou transparent ?
Alors, la sérigraphie, donc, c'est une technique d'impression au cadre. Donc, ce sont des cadres sur lesquels sont tendus un tissu très fin. Et à travers ce tissu va passer l'encre, donc, que ce soit l'encre textile ou ici, donc, c'est des engobes que j'utilise. Ce sont des pigments mélangés à de la terre qui vont pouvoir passer au four ensuite. Et donc ce cadre, il fonctionne un peu comme un pochoir en fait. On va venir protéger toutes les parties où on ne souhaite pas que l'encre vienne se déposer sur le support. Et donc une fois que le cadre est prêt, je viens donc déposer l'encre sur les carreaux, voilà, en série quoi. Je peux imprimer vraiment beaucoup de carreaux en une journée de travail. Et une fois qu'ils sont imprimés, je les émaille avec une couverte transparente et je les cuis dans un four à céramique. Ce qui va permettre donc de pouvoir les utiliser sur n'importe quelle surface murale, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur.
Ce sont des cuissons qui montent jusqu'à 1200 degrés ?
Non, pour la faïence, là c'est moi je suis à 980. Voilà. Oui. La faïence, c'est des cuissons à assez basse température. Contrairement au grès ou à la porcelaine.
Voilà, les sujets d'inspiration, donc le corps, les animaux, la nature. Par quel effet d'optique vous cherchez à les positionner quelle est votre démarche de positionner, hormis la symétrie, qu'est-ce qui vous pousse à agir avec vos sujets sur un support tel ?
Je me suis rendu compte que finalement, en découvrant décoration murale ou en design d'intérieur, ce qu'on nous proposait était assez classique et assez sage. Et là, j'ai eu envie donc de proposer quelque chose d'un peu plus de différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Donc la première collection que j'ai dessinée, c'était je partais du terme azuleros et je l'ai décomposé donc en azul et eros, et j'ai composé une dizaine de motifs en forme de rosace qui de loin donc s'apparentaient à des fleurs, et de près on apercevait donc des corps enlacés et voilà, des corps qui s'étreignaient. Et voilà, donc jouer toujours sur des doubles lectures du motif et différentes interprétations en fonction de si on le regarde de près ou de loin. J'ai fait aussi une série de motifs que j'ai appelé les plis, qui sont des plis du corps, mais qui sont vraiment des gros zooms sur les plis du corps. Et donc de loin, on pourrait penser à quelque chose d'abstrait, et puis quand on se rapproche, on découvre finalement une portion du corps.
Mais justement, les portions de corps, le corps entier ne vous intéresse pas en finale ?
Si, il m'intéresse, mais c'est vrai que j'aime bien décomposer le corps et puis jouer avec les symétries. Et donc, à partir de là, on obtient quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé finalement et qui est assez loin de l'image traditionnelle qu'on se fait du corps, qui est assez... je ne sais pas comment le définir, mais en tout cas, j'aime bien cette idée de prendre des portions et puis de les dupliquer et puis de jouer avec et puis à partir de là, d'obtenir quelque chose de très différent.
Vous pensez que ça vient d'où, cette idée ? Est-ce que vous y puisez cette inspiration par rapport à la société d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a un discours derrière ?
Alors, je ne sais pas, je l'ai pas, en tout cas je me l'explique pas. C'est vraiment avant tout un plaisir de dessiner. Là par exemple, quand je vais au cours de modèles vivants, c'est vraiment un plaisir d'être face à un corps vivant et de venir travailler vraiment en détail une portion du corps. Et à partir de ça, je pense que c'est plus une approche sensuelle finalement que sociologique.
Et puis, les couleurs, par exemple, vous n'avez aucune limite dans les couleurs ?
Alors si, malheureusement, j'ai des limites dans les couleurs dues à à l'utilisation des engobes. En céramique, on obtient beaucoup plus facilement des teintes comme des bleus ou des verts. C'est pour ça qu'à Lisbonne, on voit beaucoup d'azuléros dans les tons de bleu. Et les teintes plus chaudes, comme les rouges, les violets, les oranges, elles sont plus difficiles à obtenir. Alors j'essaye, à travers des superpositions, d'obtenir ces nuances-là, mais je suis quand même assez limitée. C'est pour ça que des fois, comme j'aime beaucoup la couleur, je me fais plaisir avec de l'impression sur papier ou sur tissu. Et là, pour le coup, il n'y a aucune limite de couleur.
Et donc, vous expérimentez, vous êtes en recherche aussi. Hein, ça prend beaucoup de temps, cette part de recherche dans votre activité ?
Alors ça a pris beaucoup de temps au début parce que comme je vous le disais, j'étais pas céramiste, donc c'est quand même une technique assez pointue. Donc j'ai eu la chance de me faire aider, mais c'est vrai qu'au début j'expérimentais beaucoup et puis ça a été toute une série de tests qui n'ont pas toujours abouti, qui n'ont pas été toujours très concluantes pour arriver finalement à ce produit qui est comme je l'espérais quoi.
Mis à part la cuisson, c'est un travail qui se fait dans le silence ?
Alors, ça dépend. Tout dépend des étapes de travail. Quand je dessine, j'aime bien dessiner en musique, avec un fond sonore derrière. Et quand j'imprime, c'est vrai que je suis dans une énergie différente et j'ai besoin d'être concentrée. Et c'est vrai que je travaille essentiellement sans bruit, dans le silence, ouais.
Et alors, sans être trop curieux, quelle musique écoutez-vous ? Vous êtes assez éclectique dans les choix ?
Ouais, mais alors je sais pas si c'est lié aux azuleros, mais j'écoute beaucoup de la musique espagnole, portugaise, de la musique d'Amérique latine en tout cas.
Du chant ?
Oui, beaucoup.
Bocas que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. Romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está na alegoria das meretrizes, nos planos dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido. Avisos não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão replicar, porque todos os sinos irão consagrar, e todos os meninos vão desinvestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno, vai abençoar o que não tem governo nem nunca terá. Juízo.
Comment ça se passe alors pour commercialiser votre production? Vous passez par le net ou alors vous avez aussi des pots ventes?
Oui, des boutiques.
Oui, des boutiques. Ouais.
Alors quand j'étais à Lille, c'était un petit peu plus simple parce que du coup j'avais un atelier. Donc on a créé avec des amis un atelier qui s'appelle la Cofabrique à Lille et qui regroupe une vingtaine d'artisans d'art qui ont leur atelier là-bas, qui produisent et qui vendent sur place. Donc c'était une assez belle vitrine où les gens pouvaient venir facilement pour nous rencontrer. Ici, dans le Diwa, bah, du coup, il va falloir que je me fasse un nouveau réseau. J'ai des carreaux qui sont en vente à l'unité à l'entrepôt, la petite boutique qui est au début de la rue, là, Camille Buffardel. Et puis, en effet, ça se fait beaucoup via Internet. Et c'est beaucoup de démarchage auprès des architectes d'intérieur. Voilà.
Qui prend un démarchage qui prend beaucoup de temps aussi. C'est toute une gestion entre la création, fabrication, distribution. Ça vous prend combien de temps de votre journée? Vous ne comptez plus les heures, je suppose.
Non, bah alors, à vrai dire, si je pouvais m'éviter cette partie-là du travail, je resterais dans mon atelier et je me consacrerais à la création. Mais en effet, sans cette partie-là, voilà, le travail n'a pas vraiment de sens. Donc j'essaye de m'y consacrer au moins une journée par semaine, à contacter des professionnels et à essayer de communiquer sur le projet.
On va peut-être parler de ce site internet dont vous avez décrit certaines séries qui seront visibles. L'adresse de ce site est laquelle?
Alors c'est www.cazocaro, donc Cazo, mon nom de famille, C-A-Z-O-T, Caro, comme des carreaux avec un X.com. Voilà. Et donc sur le site internet, vous pouvez retrouver en effet tous les motifs de la collection et les divers produits aussi qui sont en vente sur le site.
Un site que vous remettez à jour en fonction des nouvelles productions aussi?
Oui, j'essaye de me tenir à jour en effet sur le site et puis sur les réseaux sociaux aussi. J'ai une page Facebook que j'essaye d'alimenter régulièrement. Voilà.
Pour vous, est-ce que le Diwa est propice à une quiétude pour pouvoir travailler en toute sérénité?
Oui, complètement. Depuis que je suis ici, je me rends compte que je suis beaucoup plus disponible à la création et puis que je suis beaucoup plus libre aussi dans ce que j'expérimente. Et puis, en venant ici aussi, j'ai décidé de me consacrer uniquement à ça. Donc une bonne partie de mon temps est consacrée à la création. Donc c'est vrai que c'est assez agréable. Et puis avoir ce décor tout autour, c'est vrai que c'est une chance, je trouve. Ouais.
Vous êtes en recherche de motifs et de reproduction de montagnes aussi dans votre travail?
Alors là, en ce moment, je travaille sur une série de fresques liées aux saisons. Donc, je suis plutôt sur la végétation. Donc, j'ai constitué un herbier. Et puis, à partir de là, j'essaye de créer des motifs en fonction des saisons. Donc là, en ce moment, l'automne. La montagne, ouais, je pense que ça viendra, en effet.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de bleu ici. Ça doit être assez beau à voir. Et toujours dans une idée, peut-être, de faire une scène plus complète sur plusieurs carreaux. C'est toujours dans le découpage.
Non, c'est vrai que j'apprécie de plus en plus à faire des motifs plus grands qui prennent vie sur une plus grande surface. Mais j'essaye de faire attention à pas tomber dans quelque chose de trop illustratif aussi, parce que je fais pas des tableaux, je fais pas des œuvres d'art. Je veux que ça reste quand même quelque chose d'assez graphique et qui puisse s'inscrire dans un intérieur, dans n'importe quel intérieur, quoi.
Je regardais les azuleros sur Internet et je trouvais qu'il y avait des scènes très figuratives, mais pleines de mystères malgré tout. Est-ce que c'est pour vous un piège pour vous, ça?
Les azuleros au Portugal, vous voulez dire?
Oui.
Oui, alors en effet, c'est... Alors, Pour ce qui est des grandes scènes qui sont représentées sur les églises, ou voilà, plutôt sur les églises, en effet, c'est très figuratif et j'essaye de m'en éloigner. J'essaye d'être dans une démarche plus ornementale. Oui, voilà, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est quelque chose qui se fait assez instinctivement, alors...
Est-ce que vous feriez par exemple un carré blanc sur un carreau blanc?
Non, je pense pas. Déjà, j'aime trop la couleur pour faire du blanc sur du blanc. Et puis, en effet, j'ai quand même besoin que ça raconte quelque chose à celui qui le regarde. Je suis pas vraiment dans l'abstraction, en fait.
Non, c'est très figuratif. Par contre, c'est la composition
oui,
qui est abstraite.
Oui, et puis la répétition, je pense, qui fait que de loin, ça s'apparente à quelque chose d'assez géométrique, finalement. On discerne pas vraiment le corps ou l'animal quoi dans le motif.
Oui, avec une représentation des poses assez similaires hein, entre animaux et corps humain. Et puis, je suppose que vous avez déjà exercé votre art sur le Diwa. Et est-ce que vous avez déjà produit des installations?
Non,
chez des particuliers, pas encore.
Pas encore, non. C'est vraiment tout récent. Là, je suis là depuis 3 mois, donc c'est vrai que j'ai pas eu vraiment l'occasion encore de montrer ce que je fais ici. Mais je prévois en tout cas d'organiser des stages et des ateliers pour ceux qui seraient intéressés par cette technique et qui aimeraient s'initier voilà à la sérigraphie sur faïence et aussi sur d'autres supports. Et voilà, je pense qu'à partir de là, du coup, ce sera une manière aussi de montrer ce que je fais.
Et vous envisageriez ces ateliers à peu près dans combien de temps?
Alors plutôt au printemps, parce que ça se passerait dans mon atelier et il risque d'y faire froid cet hiver. Voilà, donc à partir de mars, je pense, ce sera plutôt des formules sur plusieurs jours, avec vraiment un projet qu'on réaliserait du début à la fin, de la création du motif à l'impression, à la cuisson. Voilà.
Est-ce que c'est difficile d'exposer votre travail?
Oui, c'est difficile parce que je ne sais jamais vraiment dans quel endroit le montrer parce que finalement, c'est un peu à la frontière des arts plastiques et des arts appliqués. C'est de la décoration, mais aussi j'essaye d'aller au-delà de la décoration. Voilà, j'essaye d'être visible dans différents lieux, que ce soit des boutiques d'artisanat ou des boutiques de design, mais aussi dans des agences d'architecture. Enfin voilà, j'essaye d'être assez visible dans différents types de lieux.
Est-ce que vous avez essayé d'autres représentations que le corps, la nature?
Oui, alors j'ai eu une commande juste avant de partir de Lille. D'une entreprise qui souhaitait des faïences pour ses sanitaires et qui avait envie vraiment de motifs beaucoup plus géométriques et beaucoup plus abstraits, avec plutôt un travail de texture et de matière et de couleur sur des aplats colorés. Donc ça, c'était chouette à réaliser parce que finalement, c'était assez différent de ce que j'avais l'habitude de faire. Et ça m'a ouvert d'autres possibilités. Donc même si c'est quelque chose que je ne propose pas, parce que voilà, ça ne correspond pas vraiment à mon univers, bah, c'est des approches que j'utilise maintenant dans mes motifs. Par exemple, je ne sais pas, des aspects de dégradé sur les aplats ou des aspects un peu de marbrure que je peux réutiliser aujourd'hui dans mes motifs. Donc tout ça, ça vient nourrir le travail aussi.
Le dada, vous le situez où par rapport à votre travail?
Le mouvement dada? Ah, je sais pas, j'ai jamais réfléchi. Je me sens pas appartenir à ce mouvement en tout cas. Non.
Vous avez des modèles ou des exemples d'artistes qui vous ont inspiré ou influencé sur votre travail?
Alors des modèles d'artistes. Alors oui, j'ai plein d'inspiration dans la peinture plutôt figurative française et étrangère aussi. Mais ce qui m'inspire davantage, je pense, C'est le réel, je dirais. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai sous les yeux, à portée de main. C'est plutôt ça qui m'inspire, je crois. Ouais.
Et quand vous concevez justement ces carreaux qui sont en fait produits pour être juxtaposés et de manière à recomposer quelque chose, vous réfléchissez sur comment appliquer à tel endroit du carreau telle figure pour qu'elle puisse se retrouver sur d'autres. Mmh. J'ai pas des exemples en tête, mais je crois que vous avez fait une série sur Frida.
Oui, hein? Alors Frida est une de mes sources d'inspiration, Frida Kahlo. Et c'est vrai que ça, c'est un de mes premiers motifs. C'était, donc c'est un visage qui peut faire penser à Frida Kahlo, mais qui a aussi des inspirations africaines. Et donc, en effet, quand on voit un seul carreau, on discerne pas forcément le visage. Et c'est en le répétant que le visage va se reconstituer. Donc ça, c'est quelque chose que j'essaye de faire aussi dans presque tous les motifs, c'est-à-dire que le motif, souvent, il se lit complètement dans sa totalité à partir de quatre carreaux, souvent. C'est les quatre carreaux qui reconstituent le motif.
Alors, par rapport à un ordre de prix, par exemple, décorer une table, ça vous le faites aussi, hein?
Oui, ouais,
et ça peut revenir à combien pour un particulier de passer commande pour vous?
Alors, donc il y a un prix au carreau. Donc le carreau à l'unité, il peut varier entre 12 et 15 euros. Et après, le prix est dégressif au mètre carré. Donc on est à 350 euros le mètre carré, donc ce qui représente environ 50 carreaux. Ce sont des carreaux 15 par 15. Et donc pour une table, je ne sais pas, d'une surface de 60 cm par 60 cm, ça revient à environ 150 euros. Voilà.
Et vous faites toute l'application vous-même, et les jointages et toutes ces parties-là?
Alors non, bien souvent on commande des carreaux, enfin même de manière générale on commande des carreaux et puis la pose se fait par un professionnel. Mais je propose aussi des objets déjà carrelés, comme des tables par exemple, et là pour le coup c'est moi qui les jointe, qui les carrele et qui les jointe. Mais souvent en effet les gens m'achètent les carreaux et en font ce qu'ils souhaitent ensuite, quoi.
Vous parliez de mosaïque tout à l'heure, oui. Est-ce que vous avez abordé cette technique aussi et... Non, pas du tout.
Non, pas du tout, mais je pense que ça viendra. Voilà, là c'est encore assez récent, donc j'essaye de me concentrer. Pour l'instant, ce que j'aime vraiment, c'est le motif et puis c'est la sérigraphie. Mais je pense que petit à petit, je vais développer d'autres techniques. Et en effet, la mosaïque pourrait être l'une d'entre elles, ouais.
Je vous avais posé la question hors micro tout à l'heure, ou je ne sais plus, si vous pensiez organiser par exemple des portes ouvertes prochainement pour faire visiter votre atelier et puis faire connaître aussi votre travail.
Mmh. Ouais, alors en effet, je sais qu'il y a des portes ouvertes des métiers d'art, je ne sais plus, je crois que c'est au printemps. Donc je pense que ce sera l'occasion en effet d'ouvrir l'atelier au public. Et puis voilà, j'ai prévu aussi d'indiquer le lieu... Parce que donc l'atelier est à Recoubo, donc depuis 10, j'ai prévu d'indiquer l'atelier sur la route, voilà.
Le dessin et vous, ça a fait un depuis très tôt ?
Oui, alors je viens d'une famille où j'ai des sœurs qui dessinent et où j'ai été influencée beaucoup par ça, je pense. Donc en effet, je dessine depuis que je suis petite. Et puis voilà, c'est une technique qui est assez... assez familière et qui me procure en effet du plaisir.
Mais est-ce que pour vous, le dessin et la vie professionnelle étaient une évidence très rapidement?
Alors, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui nous ont laissé faire ce qu'on avait envie. Donc, j'ai fait ces études d'art appliqué où le dessin était vraiment très présent. Et puis ensuite... À la fin de ma scolarité, j'ai été amenée à travailler un petit peu en entreprise et je me suis rendu compte que ça correspondait pas vraiment à mes attentes puisque la notion de créativité est souvent réduite et voilà. Donc très vite, j'ai eu envie de faire un peu ce que j'avais envie et de me lancer dans ce chemin-là.
C'était un départ facile ou alors il y a eu quelques embûches ?
Ouais, non, je dirais pas facile quand même, parce que ça demande de la rigueur et il faut avoir suffisamment confiance en ce qu'on propose pour aller jusqu'au bout. Et puis comme c'est un produit un peu particulier, que les gens n'ont pas tous les jours une cuisine ou une salle de bain à refaire, ça demande d'être sans cesse dans la recherche de nouvelles clientèles. Et voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est naturel et facile pour moi. Mais en tout cas, je sens que ça me correspond et que voilà, j'ai bien fait de faire ce choix-là.
Je pense que Laurie, on va terminer cette interview. Laurie Cazot, qui est ici pour nous parler de Cazot Caro.
Merci Yves.
Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci à vous aussi.
Au revoir.
Interview. 1, terre.
Hey, the bird.